11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la première édition de l'année 2020 du meilleur de Sud Radio. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une merveilleuse année. Comme tous les week-ends, je vous ai sélectionné tous les moments qui ont marqué cette semaine. Et on va commencer sur une note humoristique avec Walter. Jeudi, dans le Grand Matin Sud Radio, il nous a encore beaucoup fait rire, puisque figurez-vous qu'il a décidé de mettre dorénavant en pratique le slogan de Sud Radio « Parlons vrai ». Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h20, merci d'être avec nous. Et comme tous les jours à 8h20, bah, c'est notre chronique humour. Et ce matin, c'est Walter qui est avec nous. Bonjour Walter.
Bonjour Cécile.
Comment ça va?
Bonjour tout le monde, vous allez bien vous?
Bah ça va et vous?
Bah écoutez, moi, je vais vous dire très honnêtement, moi ça va moyen.
Hein, ah bon d'accord.
Pourquoi? Oui, parce que je gagne du temps, de toute façon c'est écrit dans le texte.
Ah bon ah,
c'est... Non, mais c'est parce que...
C'est le temps que je reviens dans le studio.
Ah, exactement, mon cher Patrick. Café,
ouais, tout le monde est en retard, ça va, ouais, vous êtes à l'aise.
Écoutez, j'ai décidé d'appliquer ce matin le slogan de notre radio « Parlons vrai ».
Ah merde, ça veut dire que j'ai l'habitude.
Vous savez quoi? J'ai essayé de l'appliquer dans ma vie. Ouais. Franchement, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de faire semblant, vraiment.
Alors expliquez-nous, comment ça?
Je vous explique, Cécile.
Allez-y.
La semaine dernière, j'étais à une fête et je cause avec une jolie nana avec des yeux... Bon.
Comme
quand je dis une jolie non pas aussi jolie que vous hein, mais oui. Pas mal quoi, voilà. Pas mal hein, parlons vrai.
Ouais.
Ah, qui me dit ah toi t'es marrant et tout et sinon qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Et là je me suis pris les pieds dans un tapis perçant immense. Enfin je veux dire, j'essaye de trouver des, vous savez, des espèces de qualificatifs pour un tapis dans lequel on peut se prendre les pieds, c'est-à-dire un tapis perçant comme les Américains en 53 avec moi ça dégage. On n'en a rien à foutre. Avec vous savez, j'improvise là.
Ouais.
Alors voilà.
En fait vous avez menti,
me dit, non mais excusez-moi, voilà. C'était quand même, ça existe quand même hein, Mossadegh en 53. Voilà, qui me dit ah t'es marrant et tout et toi sinon qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Et là j'ai menti parce que si j'avais dit la vérité j'aurais dit ah tu t'intéresses à quoi? Quand elle m'a dit ça, j'aurais dit aux arts plastiques, à l'argent et au cul, mais non. J'ai dit, moi je m'intéresse à l'humain avant tout, et notamment à la cause des femmes et des salaires et l'égalité, j'habite pas loin d'ici. Du coup, la nana, qui est bonasse, moins que vous, hein, Cécile,
ouais,
on s'entend, elle me dit, ah, et vous êtes attachée à la cause des femmes, c'est génial, vous êtes allée à la manifestation féministe la semaine dernière. Alors, soyons, hein, on va se mentir, moi je suis pas allé, hein, je suis allé voir le dernier Polanski, mais comme, parce que je m'intéresse plus moins aux femmes qu'aux juifs, et comme je me suis dit, voilà, je voulais montrer de la compassion, je voulais la baiser, en fait je me réponds, évidemment que j'y étais à la manif, c'était génial, sauf à la fin, quand tout le monde a crié « Allah Akbar », et là, je m'étais gouré de manif, putain, je me suis dit « Merde !» C'était la manif de la semaine d'avant, pour l'islam, contre l'islamophobie.
C'est
et je n'étais pas non plus allé parce que déjà c'est beaucoup moins bien pour draguer.
Oui, tu m'étonnes.
Alors, on va pas se raconter l'histoire hein, parce qu'à cette manif là, même si tu t'emballes vraiment bien, tu te fais
croire.
Ah, tu te mets deux nanas mais avec des burkas, un plan à trois, ben, si t'as pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ah, c'est comme un plan à deux sauf que tu louches. Ça, vraiment, ça n'a aucun intérêt.
Ah, ouais, ben vous êtes bien fait griller, vous.
Ah, oui. Et ça m'a donné une bonne leçon, c'est
ça. Ah, bon, d'accord, très bien. Ah,
bah, je me suis dit. Autant arrêter de mentir pour rien, parce qu'après, on s'habitue. Donc, fin de mentir pour un oui ou pour un rien, autant dire la vérité. Vous ne trouvez pas? Vous êtes quand même sexy.
Oui.
Ah, Patrick, vous êtes simple. Bon.
Bon, et alors, à quel moment il ment, là? Je ne sais plus, c'est l'inverse, je ne sais pas. Allez-y,
rire,
allez-y. Alors là, maintenant, vous voulez dire la vérité?
Tout à fait.
Ah, parce que la justice, c'était
non,
pas...
Non,
ah,
je suis désolé, il n'est même pas encore...
Ouais.
Moi je suis crevé, il est même pas encore 9h du matin, j'ai souhaité une excellente journée à 19 personnes.
Ah bon,
alors je m'en fous totalement, on va pas se mentir que cette personne passe une bonne journée. Moi même si je passe pas une bonne journée personnellement, c'est pas très grave.
Oui.
Autant vous dire que les 19 autres, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas bien compris cette métaphore, c'est une que j'ai pompée à Jacques Chirac qui est marrante parce qu'elle parle de testicules.
Oui.
Alors franchement, ne plus mentir, essayez tout, ça fait des vacances. Non mais vraiment, ah t'as mis une nouvelle coupe de cheveux, ouais, au lieu de dire ouais ça change, lâchez-vous. Franchement, ouais, t'as tes cheveux, c'est de la merde. Ça te fait tellement une tête de cul que même celle de Trump est mieux. C'est plus
alors, mais finalement, philosophiquement, c'est bien parfois, mais c'est nécessaire d'arranger un petit peu la vérité, non?
Mais attention, il y a des fois, il faut le faire. Moi, mon grand, histoire vraie, hein, mon grand-père qui a décidé en 1941 que son second prénom, Isaac, serait avantageusement remplacé par Robert sur sa carte d'identité grâce à ses contacts à l'administration municipale de la ville de Chicago. Charleroi. C'était vrai en plus. Eh bien, voilà. Ça, ouais. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Devant un nazi, t'hésites pas.
C'est ça.
Tu l'encules, le nazi. Je te jure.
Donc,
vraiment.
Walter, ça veut dire que, à moins que ce soit vraiment indispensable, le meilleur, c'est de dire la vérité, c'est ça.
Voilà. Je vous dis la vérité, ça fait des vacances. Rien à voir, Patrick. Je suis très, très mal payé pour cette chronique. Et puis, imaginez.
Ouais, mais ça
imaginez comme ça serait bien autour de France.
Ouais. C'est pas la vérité.
Ouais. C'est tout à fait la vérité. Et puis, imaginez autour de France les interviews des cyclistes. Ah, vous avez commencé l'entraînement ? Non, pas encore, mais mon équipe médicale, oui. Ce serait plus détendu, vous voyez.
C'est ça, la vérité est tout azimut et bam,
mais,
partout.
Mais oui, imaginez si dans tous les McDonald's, ouais. si on mettait sur les photos les burgers qu'on te sert vraiment.
Ouais.
Excellent pour le taux de diabète, plus personne n'en boufferait. Enfin, quand je dis McDonald's, ouais. j'ai rien contre cette marque en particulier.
C'est ouais, pas ouais,
la même
être
chose
autres,
pour Burger King, hein. Quick ou Tinder.
Ouais. Hein,
qui
Tinder.
C'est la santé publique.
Et dis donc, on parle de Tinder aussi pour nos auditeurs qui ne verraient pas vraiment que c'est un site de rencontre. Ça en est un quand même.
Mmh. On rencontre rarement des nanas qui vous ressemblent.
Ah, bah, allez, mais c'est gentil. Ah, en tout cas, c'est sur des fausses photos. Et d'ailleurs, finalement, ça a donné quoi avec la jolie nana? Vous avez conclu?
Non, évidemment, je me suis fait crier. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fini la soirée à faire l'amour tout seul.
Ah bon,
mais vous savez, c'est pas si triste. Parce que j'ai repensé à cette phrase de Woody Allen qui disait « Se masturber, c'est faire l'amour avec la personne qu'on aime le plus au monde.
Oui. »
Sinon, vous faites quoi ce soir, Cécile?
Moi, je suis sur Internet.
Le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec l'invité du 10h midi, Patrice Lafont, qui a fait des confidences étonnantes au micro de Valérie Expert, le top de l'actu 2019 des vraies voix, et le fils de Coluche, Marius Colucci, qui a répondu aux questions de Jacques Pessis. Ne bougez pas.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Si jamais vous avez loupé une ou plusieurs émissions cette semaine, rien de grave, puisque j'ai sélectionné pour vous tous les moments les plus marquants. Et si vous avez manqué l'émission des vraies voix de mardi, je vous propose qu'on écoute un extrait ensemble. Philippe David et ses chroniqueurs Philippe Bilger et Corinne Tapiro vous ont servi sur un plateau leur top de l'actu 2019.
Le meilleur de Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix. Christine Bouillot.
Ah, c'est toi,
ah ben oui.
Voilà.
Il était fabuleux, Roger Moore, là-dedans. Bien meilleur qu'en James Bond.
Ah oui.
Mais il y a un petit
tellement
différentiel.
Beau, hein. Et ouais, tellement c'est, séduisant.
Vous avez vu, il y en a un prochain James qui va sortir.
Qui
avec,
c'est vous
Gone, Carlos Gone.
J'aurais tellement aimé. My name is Bilger.
Bilger. Alors justement, parce que vous avez la parole, mon cher Philippe. Votre top, puisqu'on commence là par les tops.
On commence par les tops.
Ouais, j'ai envie.
D'accord. Le top, moi, c'est de rendre hommage à Sylvain Tesson, qui,
l'écrivain,
au cours de cette année 2019, a connu un succès considérable, qu'il mérite, mais qui est très révélateur sur les attentes profondes de l'époque et de la France. On n'aurait pas pensé qu'un homme à la fois si cultivé mais si austère, capable d'efforts inouïs, aimant la nature, détestant le clinquant, le vulgaire et l'urbain en quelque sorte, si pétri de conscience et d'intelligence et avec un style éblouissant, je vous recommande le dernier, La Panthère des Neiges, aurait un tel succès. Eh bien ça m'a rassuré sur la qualité de notre monde.
Pourtant, c'est vrai que on est plutôt dans un monde d'images, de représentations.
Mais peut-être a-t-on besoin, pour se consoler ou se guérir, d'être comme lui, quoi. Alors, je ne serais pas capable de vivre la vie qu'il a quand on voit le récit de la Panthère des Neiges avec ses amis. Le courage physique, la résistance, c'est hallucinant. Mais voilà un homme d'action, d'aventure et qui a un style admirable.
Voilà, il combine tout, donc c'est tout. Votre chouchou de l'année.
Si, et j'ai eu la chance de l'interviewer, il est aussi extraordinaire à l'oral qu'à l'écrit.
Alors, ça, c'est donc Philippe Bilger et Corinne Tapiro. Quel est votre, on va dire, votre fait marquant?
Alors,
on
moi,
va
j'ai, dire plus, j'ai plus. Cherché, parce que je trouvais que cette année a été quand même particulièrement glauque.
C'est-à-dire qu'on appuie toujours un peu là où ça fait mal aussi. Hein, ouais.
Donc,
un peu...
moi, ce que j'ai retenu de cette année, et dans lequel je vois un message plein d'espoir, c'est le travail de la recherche indienne qui a mis au point un contraceptif masculin. Et je pense que ça, c'est une vraie avancée pour l'égalité des femmes et des hommes, puisque la contraception ne peut pas continuer à n'être qu'une affaire de femmes. Et je me dis que c'est une vraie avancée depuis la loi sur l'avortement de Simone Veil. Et je trouve ça extraordinaire qu'enfin les hommes s'emparent d'un sujet qui peut être le leur, parce qu'une affaire, une relation amoureuse ou pas, ou une aventure, ne peut pas rester à l'entière responsabilité des femmes. Et je trouve ça plutôt bien. Donc, un grand coup de chapeau aux Indiens. Bah,
surtout que ça vient d'un pays
où la place de la femme est quand même très... très, très minimisé, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc là, la recherche est terminée, ils vont commencer à commercialiser ce produit. Alors, avec quelques bémols, hein, parce que c'est efficace pendant 13 ans, ce serait réversible à tout moment, et je pense pas que tous les messieurs vont être très très favorables à cette pratique, dans la mesure où il s'agit de faire une injection dans les testicules. Donc bon, voilà.
Oui, ça reste un peu compliqué d'un premier abord.
Voilà, mais ça ne dérange pas les hommes que les femmes s'enquillent des tonnes d'hormones en cachet tous les jours pendant des mois et des mois. Voilà, donc un peu chacun sa part, et je trouvais ça extrêmement bien.
Ça fait sourire Philippe Bilger.
Non, non, mais j'allais dire à Corinne, ils compatissent les hommes d'eux.
Ah oui,
vraiment,
ah oui, oui. Surtout oui. Quand ils larguent les nanas.
Moi,
après.
Je peux d'autant plus approuver votre top, ma chère Corinne, que en ce qui me concerne... Le problème est réglé.
Devant le micro, mon cher Philippe, attention.
Le problème est réglé.
Voilà. Mais ça dit quand même quelque chose aussi de la prise de conscience de cette question de la natalité, parce que c'est aussi ça.
Oui, et c'est assez logique, dans la mesure, me semble-t-il, on voit de plus en plus, j'appellerais ça une indifférenciation, mais peut-être plutôt un rapprochement des rôles et des comportements, et là, il n'aurait rien de choquant.
Voilà. Mais quand on voit, par exemple, l'éducation à la sexualité à l'école, en fait, on ne met en alerte que les filles sur ce qui risque de leur arriver. Mais enfin, quand elles ont un rapport sexuel, elles ne sont pas toutes seules.
Mais voilà, nous sommes deux en termes de mœurs. Hein. C'est vrai que la parité là, est bien aussi à ce niveau.
Et je pense que Marlène Schiappa, au lieu de s'enorgueillir du top, je sais pas quoi, top 10 de JDD, elle ferait bien de s'enorgueillir d'un événement comme celui-là.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Toute l'équipe des Vraies Voix vous donne rendez-vous lundi à 17h avec le retour de Christophe Bordet. Allez, on continue avec un invité qui se fait rare dans les médias, c'est Patrice Laffont. Jeudi, il a répondu aux questions de Valérie Expert et de Gilles Gansman dans le 10h midi, et il a fait des confidences plutôt étonnantes sur la raison pour laquelle il acceptait d'être invité dans des émissions. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Une émission un petit peu particulière. On va prendre des nouvelles de ceux qu'on ne voit plus forcément dans le poste, mais qui sont toujours extrêmement actifs, qui font plein de choses, comme Patrice Laffont, comme Maureen Dor qui sera avec nous, et Jean-Claude Bourret également. Patrice Laffont, comment... Alors, la télé, ça s'est arrêté quand ?
À l'antenne, il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Mais ça ne m'a pas posé aucun problème, mais pas le moindre. Et quand j'entends des gens qui disent « Oh là là, ne plus faire d'antenne et tout », moi, j'étais presque soulagé.
Ça s'est passé comment ?
Parce que je me demande si j'ai vraiment aimé
faire
de l'antenne.
Ça s'est arrêté comment et pourquoi ?
Ça s'est arrêté parce qu'ils me trouvaient trop vieux. Vous savez, bon, déjà à l'époque, le jeunisme commençait à émerger. Ouais. Et puis un jour, il n'y a plus l'émission. Je crois que la dernière que j'ai faite, c'était une émission produite par Nagui, qui lui avait envie de m'employer, et qui s'appelait La liste gagnante sur France 3. Puis après, ça s'est arrêté comme ça. Plus personne ne m'a rien proposé, sauf de produire Les Chiffres et Lettres, qui m'a fait très plaisir. Parce que ça m'intéresse.
Donc vous continuez à produire Les Chiffres et les Lettres, qui est sur France 3, lundi au vendredi.
Et je l'ai même complètement changé, rajeuni. Ça devient une émission qui ressemble à un jeu moderne, ce qui n'était pas encore le cas il y a 4-5 ans.
Ouais, Patrice Laffont, vous dites, je ne suis pas sûr d'avoir aimé ça. L'antenne ?
Non, franchement.
Mais vous l'avez fait pendant un moment quand même.
Bah oui, mais c'est comme moi que...
Vous étiez quoi, pris
pour les brosoufs, c'est sympathique, non ?
Ouais.
Non, il y a des trucs que j'ai bien aimés. J'ai adoré faire Fort Boyard, j'ai adoré faire Pyramide. 17 ans de Chiffres et les Lettres, je m'en serais peut-être bien passé. Bon, enfin, c'est comme ça. Et quand j'ai dit à Armand Jameau que j'allais arrêter, il m'a dit « Mais coco, mais t'es complètement fou, t'es dans un fromage. » Et il avait raison, ça a duré 46 ans.
Ça a duré 46 ans.
Et ça dure toujours.
Ça dure, oui, bien sûr. Mais à l'antenne, ça a été...
46 ans. Pour moi ?
Oui,
non, pour moi, 17
vous.
Ans. Non,
17 ans, mais c'est déjà pas mal.
Mais j'aurais pu rester encore un moment. Hein,
quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi ?
Je voulais être comédien. C'est pour ça que...
Le gendarme.
Le gendarme est autre chose.
Le gendarme est autre chose, il y a eu beaucoup d'autres choses.
Mais je voulais être comédien. Puis la télé est arrivée grâce à Armand Jameau qui m'a dit « Coco, viens donc faire un tour à la télé, tu vas voir. » Puis j'ai fait « Aujourd'hui, madame, enfin, on va pas raconter ma vie. » Et puis voilà, c'est parti comme ça. Je ne crache pas dans la soupe, j'étais très content de faire de la télé. Mais la présentation elle-même, ça ne m'a jamais passionné.
Ouais, la première télé, c'était quand ?
C'était Aujourd'hui, madame. Et c'était rigolo, d'ailleurs, parce que c'était une émission... Je faisais les reportages, surtout, ce que j'ai adoré faire. Et puis, il m'a dit un jour, il faut que tu te lances, il faut que tu ailles à l'antenne. Premier invité, c'était des dames qui étaient là, dans des fauteuils, puis le premier invité, Jean-Claude Brialy. Et je dis, moi, complètement paniqué, je dis bonjour, voilà. Et il y a Jean-Claude qui dit, attendez une seconde, j'aimerais vous présenter mon jeune fiancé, en parlant de moi.
Et là, ça lui ressemble bien.
Ça m'a déstabilisé complètement, je ne sais pas comment j'ai fait pour aller jusqu'à la fin.
En fait, c'est une émission qui pourrait exister maintenant, aujourd'hui, madame, qui serait moderne, avec tout ce qu'on entend sur MeToo, sur...
Mais absolument.
Expliquer maintenant, on pourrait refaire aujourd'hui, madame, dans une version moderne.
Mais les émissions de l'après-midi sur France 2, ça fait un peu de l'aujourd'hui, madame. Quoi.
Ouais. Oui, c'est pas exactement pareil. Pas tout à fait pareil. Petit quiz télé, l'événement historique qui vous a marqué à la télévision?
Oh, bon, c'est ce que j'ai regardé avec mon papa, je ne m'en rappelle plus, en pleine nuit, c'était l'Homme sur la Lune.
L'Homme sur la Lune, ouais.
Ouais, ça, surtout qu'en plus, on n'avait pas la télé depuis longtemps, ouais. Et papa, noir et blanc, bien entendu, il me disait toujours, mais c'était vraiment le cas, parce qu'à l'époque, il y avait des, je ne sais plus comment ça s'appelait, il me disait, Patrice, va faire chauffer la télé. Et je partais, et on était encore à table, et j'allais faire, pas ce soir-là, parce que c'était très tard, mais j'allais appuyer pour le bouton, le temps que ça arrive, ça prenait 2 ou 3 minutes.
Et vous vous souvenez de l'arrivée de la télé chez vous?
Oui, absolument. C'était mon papa qui était qui est devenu
un grand éditeur, Robert Laffont.
Absolument. Ouais. Mais qui était très ouvert et qui était. Parce que les gens lui disaient la télé, arrête.
Ça ne marchera jamais.
Ça ne marchera jamais. On a les bouquins, lisons. Ouais. Et tu dis oui, je vais lire, mais je vais regarder la télé aussi. Puis voilà. Puis il nous a convertis complètement.
Et il était fier de vous regarder dans vos émissions ou ça le gênait que vous fassiez de la télé?
Non, pas du tout.
Et il était content.
Il disait toujours. C'était quand même un éditeur très connu, mais bon c'était son nom, disait quelque chose. Mais quand, après, je suis devenu plus connu que lui, il était très content. Il disait « Ah, mon fils est beaucoup plus connu que moi ».
C'est vrai, il en était
très,
fier.
Très content, ouais.
Est-ce qu'il y a une émission qui vous manque, que vous aimeriez revoir à la télévision?
Non, mais moi je ne suis pas passéiste du tout. Les gens qui disent « Oh, c'était mieux de mon temps », les anciens combattants, non, pas du tout. Non.
Rien,
si,
oui.
J'adorais les dossiers de l'écran, mais on l'a refait d'une autre façon. D'une autre ça ne s'appelle pas les dossiers de l'écran. Il y a un film, un débat après. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai rien qui me manque vraiment, non.
Et aujourd'hui, vous regardez quoi?
Je regarde beaucoup de séries.
Ouais. Alors, une série à conseiller?
Oh, bon, The Crown.
Moi aussi, je regarde sur Netflix.
Voilà,
vous avez vu la saison 3?
Je suis en train. Je la trouve un peu moins bien. Je trouve que cette pauvre Elisabeth, ils ne l'ont pas.
si, moi je trouve qu'elle est pas mal. Mais je la trouve pas mal. Je trouve qu'elle ressemble peut-être moins que la précédente, mais elle incarne assez bien.
Mais moi, j'aurais pris la précédente en la vieillissant, en éclat. Tout d'un coup, ça fait un changement tellement radical.
Moi, j'aime bien.
Et alors, vous les regardez comment, les séries d'affilée ou épisode par épisode? C'est quel genre de téléspectateur?
Non, je suis plutôt un téléspectateur où je me fais, si on peut dire ça, 2 ou 3 numéros. Voilà. Ouais. Après, j'arrête, mais quelquefois, j'alterne avec une autre série. Je vais commencer Irishman.
Irishman, mais il faut regarder plusieurs fois, 3h30.
Et vous êtes assis sur un canapé, allongé? Et est-ce que vous mangez?
Vous êtes très indiscret, je suis couché dans mon lit très souvent,
mon
chien fusil. Et quelquefois, je dîne devant ma télé. La télé est une chose très importante pour moi.
Oui.
Je passe vraiment. Et puis le sport. Je suis un dingue de foot, donc je regarde tout ce qui passe.
Et les émissions, les magazines, les talk-shows, ça vous intéresse ou
Pas trop, non. Il n'y a pas grand-chose qui me...
Mais quand vous allez chez Hanouna, vous êtes content d'y aller ou, comment vous avez le regard sur cette télé qui est loin de la télé d'Armand Jameau, une télé plus...
Ça, c'est sûr.
Avec plus de distinction, j'entends.
Ça, c'est sûr que c'est vrai que c'est très loin. Non, moi, j'aime bien, parce que je suis assez cash, donc je sais que... Si j'ai envie de dire des trucs, je le dirai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'invite, malgré mon grand âge. J'aime bien balancer de temps en temps. Non, je suis assez content d'aller chez Hanouna ou chez Ruquier.
Donc vous êtes conscient qu'on vous invite pour faire du buzz quand
Absolument.
On vous fait parler? Ah oui, donc vous y allez consciemment.
Totalement.
Le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Valérie Expert et Gilles Gansman que vous retrouverez lundi dans le 10h midi. Ne bougez surtout pas, on va revenir très vite pour la suite du meilleur de Sud Radio avec la séquence 5 questions pour tout savoir avec une invitée conseillère conjugale qui vous dira tout sur les sujets à aborder dans le couple et Marius Colucci, le fils du regretté Coluche dans Les Clés d'une Vie. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Comme tous les week-ends, je vous accompagne avec une sélection des meilleurs moments de la semaine. Et avant de poursuivre avec l'invité de 5 questions pour tout savoir, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Je vous ai choisi une chanson plutôt spéciale puisque c'est celle de l'UNIS, duo gagnant du premier concours Loft Music Sud Radio Centre Accord. Voici Fleur au pisto sur Sud Radio.
Qu'en est-il du virage? Qu'en est-il du tour? Non, du joli mirage vers lequel on comme un lion en cage, tu espères ton moment, encore tu l'attends. Les insomnies bercent les nuits d'une infinie monotonie. Matin tout gris, sort ton parapluie. Une balade à la nage, on avait évidemment la tête sous les flots. Une parade à l'orage, on a laissé filer l'idée.
Dans le meilleur de Sud Radio, très beau titre de l'UNIS, le duo gagnant du premier concours Loft Music Sud Radio, Centre Accord. On passe maintenant à une rubrique que vous aimez beaucoup, c'est la rubrique 5 questions pour tout savoir. Mercredi, Philippe David recevait la conseillère conjugale Caroline Cruz pour son livre Il faut qu'on parle, qui vous donnait des idées de sujets à aborder en couple.
Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir.
Premier livre de l'année, oui, nous sommes le 1er janvier 2020 et nous sommes en compagnie de Caroline Cruze, auteure du livre « Il faut qu'on parle », 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard, publié aux éditions du Rocher, un livre illustré par Benoît Bastard. Caroline Cruze, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux puisque c'est aujourd'hui le grand jour.
Effectivement.
Vous êtes conseillère conjugale. Quand on lit votre livre que je montre pour les caméras, on se dit qu'on pourrait le rebaptiser « Le couple pour les nuls ».
Oui, enfin, ou « Le couple pour tout le monde ». Pas forcément pour les nuls. Mais c'est vrai que la plupart des situations qui sont évoquées là-dedans concernent un moment ou un autre de leur vie, presque tous les couples, oui.
Vous écrivez dans l'intro qu'il n'est plus tabou d'aller voir un conseiller ou une conseillère conjugale. Vous êtes conseillère conjugale. Oui. Pourtant, nombre de couples divorcent, 1 sur 2 dans les grandes villes. Comment expliquer ça?
C'est que je crois que le couple est à la fois très fragilisé parce que, oui, on peut se dire, on n'a plus de sentiments, on va se quitter. Donc il y a une espèce d'investissement à la fois. Le couple est fragilisé par l'investissement qu'on a sur lui. C'est-à-dire qu'on en attend beaucoup, la vie est dure, la vie professionnelle est dure. Le couple est une valeur refuge, donc on en attend encore plus. Et comme on en attend plus, on est assez facilement déçu. Et c'est là peut-être que...
pourrait commencer à se poser des questions sur ce qu'on en attend, justement.
Mais justement, Caroline Cruz, est-ce qu'on n'en attend pas trop? Vous connaissez le proverbe, l'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, quand on se rend compte, il y a une espèce d'euphorie, d'illusion amoureuse, et qu'au bout d'un certain temps... On s'aperçoit que l'autre, bah oui, que le prince charmant a quand même un petit côté crapaud et que la princesse, bon,
un côté citrouille
ou parfois ressemble un peu à une sorcière. Mais les défauts de l'autre qu'on ne voit pas au début, bah, on peut aussi commencer. L'autre est autre, c'est pas on sort de la fusion, on s'aperçoit que on s'aperçoit des défauts, mais on peut les trouver aussi charmants. Et puis c'est ça, aimer, c'est peut-être cesser d'être amoureux de manière aveugle.
Mais est-ce que parfois les qualités d'hier ne deviennent pas les défauts de demain? Je prends un exemple, on adorait entendre son conjoint chanter sous la douche, et au bout de 10 ans de mariage, on ne supporte plus de l'entendre chanter.
Mais c'est juste, hein, c'est vrai que les petits détails qu'on trouvait charmants au début peuvent devenir agaçants. Alors on peut déjà... essayer d'en parler, essayer de le lui dire, se demander aussi pourquoi cet agacement, et est-ce que cet agacement il recouvre autre chose qu'on n'ose pas dire. Après tout, c'est peut-être la chanson qui énerve, mais il y a peut-être autre chose, c'est le conjoint qui vous énerve et qu'on traduit par ça.
Dans Trouver le chemin, c'est au début du livre, c'est un couple qui se décide à aller voir un conseiller conjugal. Qu'est-ce qui crée le déclic qu'un couple va voir un conseiller conjugal?
En ce qui concerne les couples que je reçois, le déclic, c'est on a essayé, on n'y arrive pas. C'est parce que les couples qui font la démarche, c'est quand même des couples qui veulent au moins comprendre quelque chose à ce qui leur est arrivé, hein, qui n'ont pas envie de se séparer a priori. Donc on a essayé de se parler, on a essayé toutes sortes de solutions possibles entre nous et on n'y arrive pas. Donc on a besoin d'un tiers, non pas pour faire le juge de paix, mais pour aider à ce que le dialogue se retravaille autrement.
Alors dans votre livre, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations, oui. Je le montre. C'est très ludique à lire, c'est très intéressant et très ludique. Les illustrations sont de Benoît Bastard. Dans Franchir un pont, un couple, c'est un chapitre, n'est d'accord sur rien. Et la conclusion de la conseillère conjugale, qui est un peu tête vous, est « Vous êtes d'accord pour n'être d'accord sur rien ?» C'est déjà quelque chose.
Oui, alors...
Ça s'appelle pas un peu un raisonnement par l'absurde ou la méthode Coué?
Alors, c'est pas la méthode Coué, c'est plutôt... la méthode Coué et l'absurde, c'est pas la même chose. C'est une manière un peu provocante de les faire sourire, de mettre un peu... C'est important, quand un couple vient, il y a une forme de tension, surtout au premier entretien, c'est... Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois... le tabou n'est pas complètement éteint. C'est pas si facile que ça de venir déballer sa vie devant quelqu'un. Donc, desserrer un peu le nœud en les faisant un peu sourire et en leur montrant que finalement, cette manière d'être, de dire « oui, je suis d'accord avec toi, on n'est pas d'accord », ben, ça veut dire quand même qu'ils ont quelque chose en commun et qu'on peut travailler dessus. C'est les faire rire aussi. Et de même, et un peu d'humour, ça fait du bien.
En lisant votre livre, j'ai l'impression que c'est un peu... conseiller conjugal, un métier de diplomate dans « Je ne vois plus ma petite fille », la conseillère conseille de faire venir la belle-fille pour parler à la belle-mère. Parce qu'en fait, il y a des ondes négatives entre les deux, on va dire ça comme ça.
Mais parce que là, c'est ça.
Des parasites, comme on dit.
Oui, des parasites, parce que là, c'est un jeune homme, disons, qui vient se plaindre, effectivement, que sa mère ne s'entende pas, enfin, qu'il y ait des problèmes entre sa mère et sa femme. Bon, ben, c'est vrai qu'a priori, il vaudrait mieux qu'elle se parle directement avec l'aide aux besoins de quelqu'un, plutôt que lui fasse le go-between comme il le fait en permanence entre les deux femmes.
C'est un peu le plénipotent. On dirait,
oui,
pour utiliser
oui,
un
ça.
Terme diplomatique.
Oui, c'est ça. Et puis, tu es le messager. Enfin, vous voyez, quand on est entre... plus sérieusement, c'est des conflits de loyauté. C'est-à-dire qu'en même temps, il ne veut pas embêter, il veut pas être déloyal envers sa femme, il ne veut pas être déloyal envers sa mère. Donc, le pauvre, il ne sait plus quoi faire.
Il y a tout un tas de possibilités. C'est impressionnant, partir en reconnaissance pour aller plus loin, s'aventurer dans le quotidien. Il y a un chapitre, enfin un passage que... Je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas des chapitres, c'est deux pages avec des illustrations.
Oui.
Il y en a un, mon mari regarde des films X, des couples viennent vous voir pour ça?
Non, alors, ce que je peux préciser, c'est que toutes ces situations, elles ne sont pas abordées comme ça frontalement dans le premier entretien. Ça peut arriver au cours des entretiens. Et la question des films X, oui, elle arrive aussi, mais...
pas forcément comme un motif de consultation, comme un motif d'éloignement, enfin, la conséquence d'un éloignement, d'une difficulté à faire l'amour, enfin, choses comme ça. Et quand ça arrive, ben, il faut essayer de voir si c'est une addiction, d'où ça vient, si c'est simplement parce qu'elle ne s'intéresse plus à lui, ou si vraiment il est addiction au film porno. Dans ce cas-là, bon, il y a peut-être un travail à faire personnel, si l'un des deux est gêné par ça.
Alors justement, Caroline Cruz, il y a un passage très intéressant, « Ma femme est jalouse », et on voit la description d'une jalousie, mais totalement maladive. Là, ça relève, à mon avis, de la psychiatrie. Est-ce que c'est fréquent ?
Alors, la jalousie, c'est bien sûr fréquent, et surtout avec les...
Ah, mais là, le cas relève de la psychiatrie.
Oui,
pour
alors, il est... c'est vrai que c'est presque une jalousie, ce qu'on appelle une jalousie pathologique. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on arrive, de toute façon, dans la jalousie, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de preuves, enfin, il n'y a pas de preuves, il n'y a que des preuves négatives. C'est-à-dire que le jaloux finit par vouloir avoir la confirmation de sa jalousie. Et il harcèle l'autre jusqu'à ce que l'autre lui dise oui, je te trompe. Même si ce n'est pas vrai, mais parce qu'il en a. Pour s'en débarrasser. Parce que ça... Et là, dans ce cas-là, c'est presque une contre-indication à la thérapie de couple, la jalousie maladive, parce que c'est très difficile de lutter contre. Et dans ce cas-là, quand on reçoit des gens comme ça, on peut aussi faire des indications, dire vous avez besoin d'aller en parler, c'est quelque chose qui... Les gens sont quand même conscients, quand ils sont comme ça, que c'est quelque chose qui les ronge, qui les torture, qui torture l'autre, et que bon, s'ils veulent s'en débarrasser, il y a peut-être un travail à faire sur eux aussi.
Un point très intéressant, mon mari ne supporte pas le chômage. Quand on voit le déclassement social de nombre de gens, est-ce que c'est un paramètre très important pour les crises dans le couple?
Oui, ça. Enfin,
mari qui est catsup et qui se retrouve chômeur, etc.
Bien sûr, et surtout que ça bouleverse l'équilibre, ça bouleverse les rôles. Si la relation était égalitaire, elle devient inégalitaire. Et bien qu'on soit tous d'accord pour dire que l'égalité homme-femme, c'est pas tout à fait une réalité, mais en tout cas, c'est un souhait, il y a encore des représentations comme l'homme, gardien, l'homme protecteur du foyer, pourvoyeur des fonds. Et c'est une dénarcissisation évidente, peut-être encore plus pour un homme que pour une femme de se retrouver au chômage.
Un point très important que des millions d'hommes et de femmes se sont posés en France en termes de questions. Comment parler du divorce à notre enfant?
Oui, alors ça c'est... Enfin, si on a à l'esprit l'idée qu'on n'est plus des enfants justement et qu'on est des adultes et qu'on a eu des enfants, il faut essayer de voir... il faut pas essayer de... Enfin, l'important c'est de ne pas leur mentir. C'est-à-dire que quand les enfants... Quand il y a un horizon de séparation, sentent vraiment que quelque chose ne va pas. Faire semblant, c'est la pire des choses parce que c'est dénier ce qu'eux, ils ressentent. Ils ressentent quelque chose et on l'invalide. Il vaut mieux leur dire tu as bien remarqué, effectivement, entre nous en ce moment, ça ne va pas très bien. On essaye d'y réfléchir, on essaye de faire quelque chose. Et peut-être aussi, si possible, ne pas attendre trop entre le moment où on leur dit qu'on va se séparer et le moment où la séparation va être effective. Parce que ces périodes de latence comme ça sont très difficiles à supporter pour les enfants.
Mais si elles se font d'un coup, c'est encore plus douloureux peut-être pour l'enfant.
Alors, bien sûr, mais il y a peut-être un moyen terme entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va lui dire du jour au lendemain, voilà, on se sépare et hop, partir. Mais... prendre un peu le temps de lui en parler et de le rassurer surtout sur le fait qu'il sera toujours aimé par chacun de ses deux parents.
Le débat est dans l'actualité, la retraite a changé mon mari, c'est fréquent les couples où par exemple le mari était commercial et qu'il était tout le temps par Mons et par Vaux et qu'une fois qu'ils sont ensemble, ils ne se supportent plus.
Oui, de toute façon c'est toujours un indicateur de la bonne santé du couple, hein, comme les vacances. Quand un couple se frite un peu pendant l'année scolaire et que pendant les vacances, il arrive à être bien ensemble, ben, ça veut dire quand même qu'ils sont contents d'être tous les deux. Là, c'est pareil pour la retraite. C'est vrai que si on se retrouve ensemble et qu'on se regarde dans le blanc des yeux à rien faire, donc l'idée, c'est quand même de trouver des activités à faire ensemble, des activités séparées. C'est pas... mais il y a d'autres choses dans la retraite, il y a le vieillissement, ce sont des situations de crise et toute situation de crise amène un bouleversement des rôles et beaucoup d'empathie, beaucoup de dialogue, beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre.
Une autre chose, on a décidé de revivre ensemble. Est-ce qu'on peut reconstruire un couple qui est parfois un champ de ruines?
Si c'est un champ de ruines, non. Je pense pas. Non.
Là, c'est pas possible.
Non, là, franchement, si c'est un champ de ruines. Mais quelquefois, on se sépare. Vous savez, il y a des couples très conflictuels qui à la fois, sont... sont attachés l'un à l'autre, mais en même temps sont tout le temps en conflit, sont un peu en ébullition. Bon, ils se séparent parce qu'au bout d'un moment, ça devient infernal. Ils peuvent faire un travail aussi chacun de son côté, éventuellement avoir d'autres relations, et puis se dire au bout d'un moment, quand même, celui-là, c'était l'homme de ma vie, c'était la femme de ma vie. Les comédies du remariage, il n'y a pas que dans les films.
Il y a d'ailleurs un chapitre, mon ami veut faire un break. La bonne solution, c'est qu'à là, c'est pas de faire, plutôt que de se séparer définitivement, dire on fait un break de un mois, trois
pourquoi
mois,
pas.
Je sais pas.
Pourquoi pas la seule question qui reste là, c'est les enfants. C'est-à-dire que s'il y a des enfants, il vaut mieux que le break ne dure pas trop longtemps et qu'il soit clairement délimité dans le temps. Parce que sinon, indéfiniment, l'enfant, si c'est un break, attendra toujours, se demandera quand les parents vont ou pas revenir ensemble.
Et est-ce que des enfants peuvent se remettre de la séparation de leurs parents? J'ai entendu dire que non. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est toujours les enfants, ils ont envie que leurs parents restent ensemble. Vraiment. Sauf s'il y a de la violence.
Oui.
Enfin, là, hormis ces cas-là, les enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Mais rester ensemble à cause des enfants, c'est leur faire peser un poids qui est trop lourd pour eux. Enfin, on peut pas. Très souvent, les jeunes couples le disent aussi. Hein, mes parents sont restés ensemble, ils ne supportaient plus, ils sont restés à cause de nous. Ça nous a quand même beaucoup pesé dessus aussi.
Ah oui, à ce point.
Ah ben, bien sûr.
Caroline Cruz. Nous sommes le 1er janvier 2020, oui. Premier jour de l'année, premier jour de la décennie d'ailleurs, oui. Aussi. Quelles sont les bonnes résolutions à prendre pour les couples pour l'année qui commence?
Les bonnes résolutions, ce serait déjà de ne pas se demander l'impossible. Hein, parce que vous savez que les bonnes résolutions, ça peut être un moyen de se condamner à ne pas les tenir et à finir par se reprocher à soi-même et à l'autre de ne pas les tenir. Donc ça, c'est un peu le piège des bonnes résolutions. Donc essayez de ne pas se fixer d'objectifs complètement impossibles, dont on sait très bien qu'on n'arrivera pas. C'est un peu comme faire des régimes, enfin c'est un peu comme des choses comme ça. Sauf que là, c'est à deux, et que le problème, c'est qu'on finit, on finit par se dire, il avait pris la résolution d'eux, il le tient pas, donc c'est encore pire que l'année d'avant. Donc, calmons-nous un peu sur les bonnes résolutions. Bon, en revanche, il y a peut-être un certain nombre de points qu'il faut, qu'on peut envisager. Je sais pas, essayer d'éviter les moments... par exemple, éviter les engueulades idiotes, c'est-à-dire éviter de franchir le point de bascule où on va finir par se jeter dans la querelle à corps perdu, renoncer à changer l'autre, peut-être se dire que lui donner envie de changer ou bien essayer soi-même de changer, c'est pas une mauvaise idée, rien considérer comme acquis parce que rester en éveil et puis se parler et essayer de se confier l'un à l'autre et de se dire finalement l'année dernière qu'est-ce qui a été bien dans notre relation, hein, les 10 choses que tu as aimées l'année dernière. Pourquoi pas? Et puis si on recommençait ou si on en trouvait d'autres ensemble?
C'est un peu la positive attitude et la bonne
résolution.
La bonne résolution pour 2020, c'est d'acheter votre livre Caroline Cruz, Benoît Bassard.
Ça me semble être une bonne idée de le lire à deux, oui.
Merci beaucoup Caroline Cruz, auteur d'Il faut qu'on parle, 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard, publié aux éditions du Rocher, et meilleurs vœux à nouveau.
Le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Et pour la prochaine séquence de 5 questions pour tout savoir, rendez-vous lundi à 9h50 sur Sud Radio. Surtout restez avec nous, on va revenir dans un instant avec Marius Colucci, fils de Coluche, qui a répondu aux questions de Jacques Pessis suite à la sortie de son livre « Rigolez pas, c'est avec votre pognon » et qui est notamment revenu sur une date qui a marqué sa vie et celle de son père. À tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Merci d'être avec nous pour la suite du meilleur de Sud Radio. Comme chaque week-end, j'ai sélectionné pour vous tous les moments forts de cette semaine. Et avant de retrouver l'invité de Jacques Pessis, Marius Colucci, je vous propose d'écouter un titre du groupe Boulevard des Airs, sorti en 2018. Certifié disque d'or en France, c'est un featuring avec Vianney qui va vous donner envie de danser. Ça s'appelle Allez Reste et c'est tout de suite sur Sud Radio.
J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau.
On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à Pâques géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir Dieu. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir Dieu. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux.
Allez, reste dans le meilleur de Sud Radio, extrait de l'album de Boulevard des Airs. Je me dis que toi aussi. Allez, on va terminer avec un invité de marque, c'est Marius Colucci. Jeudi, le fils du regretté Coluche a répondu aux questions de Jacques Pessis dans le cadre de la sortie de son livre « Rigolez pas assez avec votre pognon ». Et il est notamment revenu sur cette fameuse date du 12 juin 1969, jour où Coluche a créé le Café de la Gare. C'était dans Les Clés d'une Vie, écoutez.
Sud Radio, Les Clés d'une Vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, Les Clés d'une Vie, celle de mon invité Marius Colucci. On parle de votre père Coluche. Il y a ce livre « Rigolez pas, c'est avec votre pognon » sur Cherche Midi. Et il y a des dates. Alors, vous interrogez sur le 12 juin 1969.
Mais oui, je trépigne, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé.
C'est l'ouverture d'un lieu dont le slogan est « C'est sale, c'est moche et dans le vent » au 18 rue de Dessart.
Oui, alors ça, c'est le Café de la Gare.
Exactement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, Coluche entre en scène après les autres, il fait semblant d'être en retard. Vous connaissez l'histoire ?
Non.
Et ben, il arrive sur scène, il ne regarde pas le public, il regarde Henri Guibet, son partenaire, et il dit « on m'a attaqué dans le métro », et il commence à lui taper dessus. Et ça dégénère en bagarre générale.
Alors, je connais le sketch, mais je ne savais pas que ça datait de cette époque-là. Oui, voilà.
Et Coluche, à l'époque, dans les années 70, c'était cette voix.
Alors, figurez-vous, il y a beaucoup de publicité à la télévision, surtout pour la lessive. Vous avez vu, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent énormément de lessive. Hein. Je ne sais pas si on est con, je ne sais pas. Alors, vous avez parlé en... Madame, oui. Je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. En effet, si je vous le reprends et que je vous en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non.
Voilà, ça c'est Coluche populaire. Ce qui est étonnant au Café de la Gare, c'est qu'il y avait le tout Paris en smoking et en robe longue. Et comme il y avait 250 places et 400 personnes, c'est Patrick Devers qui a jugé tout le monde avec un arrosage complet avec un tuyau. Je ne sais pas, vous le savez, le tout Paris a fui à ce soir-là. L'idée du Café de la Gare, c'est Coluche qui l'a eue finalement, Marius Colucci.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plutôt Romain Bouteille. En fait.
Alors, il l'a suggéré à Romain Bouteille lorsqu'il était dans un barman dans un lieu qui s'appelait La Méthode.
Voilà, alors ils travaillaient ensemble à La Méthode, où au départ, effectivement, Michel était barman. Et puis, en fait, il était très mauvais barman.
Oui.
Donc, petit à petit, il s'est mis à présenter les numéros qui allaient venir. Mais, de fil en aiguille, c'est devenu beaucoup plus drôle ce que lui faisait entre les numéros que les numéros. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « il faut qu'on fasse notre truc ». Mais je pense que des deux, entre Coluche et Romain Bouteille, Coluche était celui qui avait le plus envie de faire des choses. Mais je crois vraiment que c'est Romain Bouteille qui avait la sagesse et la méthode et qui savait comment faire. Et...
Oui, mais la sagesse et la méthode, il a été animateur de radio sur RTL, pour ne pas le citer. Il commençait à en parler quand l'émission était terminée et rien avant. C'est aussi un sacré farfelu, un génie. Et je crois que Coluche, d'ailleurs, s'est beaucoup inspiré et que le déclic de sa carrière, c'est Romain Bouteille.
Je pense. Et notamment la conscience politique, en fait, je crois qu'elle vient de là. C'est-à-dire que Michel, il venait de la rue, donc il avait des slogans qui venaient de la rue, avec ce bon sens qu'on lui connaît. Et je pense que celui qui lui a expliqué un peu comment marchait la société, c'était Bouteille.
Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est dans ce café qui s'appelait La Méthode que Michel Colucci est devenu Coluche.
Je crois.
Parce que c'était imprononçable, Colucci, pour le public.
Ah, alors, c'est peut-être pour ça, oui. Puis je pense que lui-même dit que ça sonne comme une maladie. Il y a Coqueluche, Coluche, il voulait faire un nom bien franchouillard, quoi.
Il a réussi. Alors, le rire, c'est depuis l'école primaire, je crois, chez Coluche.
Ah oui, il a toujours été très, de ce que j'en ai entendu, hein, très plaisantant, très rigolant, très vivant.
Oui, en même temps, il m'a un jour expliqué comment il avait raté son certificat d'études, brillamment.
Alors, comment ? Mais parce qu'en fait, il ne l'a pas raté.
Il assurait l'avoir raté.
Voilà, il assurait l'avoir raté parce que ça l'arrangeait très bien qu'on pense qu'il n'avait aucune qualification. Mais en fait, il avait le certificat d'études. C'est un peu comme Audiard. Il y avait une espèce de pudeur de ne pas montrer qu'on est instruit.
Et à l'époque, d'ailleurs, bon, il travaillait un peu, il réparait des motos.
Ah oui, il a tout fait. Ah ça, il a tout fait. Réparer les motos, livrer, faire les marchés, le fleuriste, tout.
Tout. Alors, il y a eu aussi ce café de la gare. Je crois, alors, est-ce que c'est Coluche, est-ce que c'est Romain Bouteille ? Ils ont découvert au départ une petite annonce où on louait un atelier de réparation de ventilateurs pour un prix modique.
Ça, j'ignorais totalement.
Et c'est cet atelier qu'ils ont transformé en théâtre.
Alors, donc, qui était rue d'Odessa à la base.
Au 18.
Voilà. Et ensuite a déménagé là où il est encore aujourd'hui, derrière l'hôtel de ville.
Voilà. Et ce café de la gare, je crois que tout le monde s'est mis, que ce soit Devers et les autres, à le repeindre entièrement. Ça a été une affaire familiale.
C'est ça, mais alors ça, c'est Bouteille qui m'a expliqué ça un jour. C'est-à-dire que Bouteille, il est totalement anarchiste dans le sens où il déteste la hiérarchie.
Oui.
Donc, il ne veut pas qu'il y ait de chef. Et ça a toujours été son credo au Café de la Gare. Il n'y a pas de chef et quand on est sur scène, on fait ce qu'on veut. Et il expliquait très bien que s'il avait appelé des comédiens pour dire « on va monter un théâtre, mais il faut commencer par les gradins », tous les comédiens auraient dit « ah ben non, mais moi, je suis comédien !» Et ils n'auraient jamais voulu. Le fait de faire un théâtre et les gens qui étaient intéressés, qui venaient dire « qu'est-ce que vous faites ?» Bah, on fait un théâtre, il faut faire les gradins. Les mecs se mettaient à faire les gradins en disant « mais moi, je sais le faire, ça ». Et du coup, ils étaient beaucoup plus motivés et ils ont obtenu beaucoup plus de ces comédiens-là qui sont devenus la troupe originelle. Donc, effectivement, Devers, Sauta, Manès. Alors, Manès, il n'y était pas au tout début parce qu'il y avait une histoire de coucherie avec Miu Miu et mon père. C'est compliqué.
Oui, car Miu Miu, qui s'appelait Sylvette, c'est Coluche qui l'a baptisé Miu Miu.
Oui.
Et je crois que c'est elle qui a trouvé le nom du Café de la Gare.
Ah, c'est bien possible, et ça, oui, j'ignorais.
Parce que le café était auprès de la gare Montparnasse,
exactement,
donc c'est devenu le café de la gare.
D'Odessa.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Les clés d'une vie, c'est tous les jours à 13h20 avec Jacques Pessis. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. Pour réécouter l'émission, c'est très simple et vous le savez, direction notre site sudradio.fr, rubrique podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Schrengirma pour C'est ça la France avant Invino avec Alain Marty. Passez une excellente fin de week-end à l'écoute de Sud Radio et prenez soin de vous. Ciao.